Alors, nous continuons nos méditations dans les proverbes. Alors, la semaine passée, on était dans Proverbe 7, c'était sur l'adultère. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait différent. Donc, Proverbe 8, c'est surtout les versets 22 à 36 que je vais commenter ce matin. Et c'est le centre du passage qui parle de la sagesse personnifiée. On va se demander qui est cette sagesse. Mais je crois que c'est quand même bien de lire l'ensemble du passage. Et donc, je vais lire l'ensemble de ce chapitre 8. Mais c'est surtout à partir du verset 22 et jusqu'à la fin que nous le commenterons. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet de hauteur, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, au seuil de la ville, à l'approche des entrées, elle fait entendre ses cris. « Homme, c'est à vous que je crie et ma voix s'adresse aux humains. Stupide, apprenez la prudence. Insensé, apprenez l'intelligence. Mais écoutez, car j'ai d'importantes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche fait entendre la vérité, mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien d'astucieux ni de pervers. Elles sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Alors, recevez mon instruction plutôt que de l'argent. La connaissance est préférable à l'or, à l'or raffiné, car la sagesse vaut mieux que les perles. Aucun objet précieux n'a sa valeur. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence. Je sais trouver la connaissance de la réflexion. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et la raison m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent, les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs. Les notables, tous les juges de la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel me possédait au commencement de son activité. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, j'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient établies, avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde lorsqu'il disposa les cieux. J'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction, devenez sages, ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille de jour en jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes, car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Seigneur, éclaire nos yeux, éclaire notre cœur ce matin, pour que nous puissions comprendre ta parole et l'appliquer à nos cœurs. Amen. Alors, ce texte est visiblement un discours. C'est bien de l'avoir lu en entier, ça forme un tout. C'est le discours de la sagesse, de Dame Sagesse. et de la sagesse personnifiée. On peut l'appeler comme ça dans un premier temps. Et donc la sagesse nous parle, elle nous raconte sa vie, elle dit d'où elle vient, elle dit quels sont ses passe-temps. Et d'ailleurs, elle a quand même des passe-temps assez spéciaux, puisqu'elle crée la terre, elle joue avec Dieu, elle joue avec les hommes. Donc cette sagesse nous parle. Et visiblement, elle s'épanouit. Mais une question se pose quand même. Qu'est-ce que c'est que cette sagesse? Alors la sagesse d'habitude pour nous c'est quoi? On a déjà parlé beaucoup de la sagesse quand on a fait ces premiers chapitres au Proverbe. Mais la sagesse pour nous c'est quoi d'habitude? C'est une qualité, on va dire, comme l'intelligence. Et une qualité, ça s'exprime au travers d'une personne. Voilà, on avance. Une qualité, ça n'existe pas en tant que telle. On ne peut pas dire, ce matin, j'ai vu l'intelligence. On ne peut pas dire ça. Ça ne veut rien dire. Une qualité, ça ne parle pas. Mais dans ce texte, la sagesse nous parle. Mieux encore, elle ne fait pas que parler. Elle nous dit qu'elle se tient donc aux côtés de Dieu, elle joue avec Dieu, elle joue avec le monde, elle se promène, elle se balade parmi les humains. Manifestement, cette sagesse dont on parle ici, ce n'est pas une qualité abstraite, ce n'est pas une idée. Non, cette sagesse ressemble bien plus à une personne qu'à une qualité. Alors la question n'est plus donc, qu'est-ce que c'est que cette sagesse? Mais la question, la vraie question, c'est qui est finalement, qui est cette sagesse? Alors le livre des Proverbes contient d'autres discours de la sagesse. On en a vu quelques-uns dans ce chapitre 1, ceux qu'on a vus en tout cas, les chapitres 1 à 8. Et dans tous ces passages, la sagesse nous parle d'elle-même. Alors je vais faire un petit condensé de ce qu'elle nous a déjà dit. La rechercher, c'est rechercher Dieu. Elle nous appelle, elle ne nous dit que ce qui est vrai et juste. Elle est plus précieuse que l'or, et à elle sont l'intelligence et la force. Elle est à l'œuvre dans la création aux côtés de Dieu, elle joue avec Dieu, elle est la crainte du Seigneur, et la trouver, c'est trouver la vie. La sagesse de ce texte, donc, est une personne, comme on l'a déjà dit. Elle ne semble pas être n'importe qui. Elle participe, on va dire, à la création. Elle détient la vérité, la justice, elle appelle les hommes, elle donne la vie. La sagesse ici a l'air d'être Dieu en personne, finalement. Parce que c'est Dieu qui donne la vie, finalement. C'est Dieu qui détient la vérité et la justice. C'est Dieu qui crée toutes choses. Mais il faut ajouter aussi qu'elle est présentée comme éternelle dans son existence. Le mot commencement du verset 22, l'Éternel me possédait au commencement de son activité, est le même que celui qui est dans Jean 1:1. On y reviendra tout à l'heure. Au commencement était la parole. Et donc ce mot nous amène dans l'éternité passée, avant la création du monde, dont on parle dans les versets 23 à 26. Et l'expression « j'ai été enfanté » du verset 24 et du verset 25 ne veut pas dire que la sagesse divine ait été créée, par conséquent qu'elle ait eu un commencement. C'est du langage poétique, comme tout ce passage. Et ce terme met en évidence que la sagesse provient de Dieu, qu'elle procède de Dieu, qu'elle découle de Dieu. D'ailleurs, dire ou penser que la sagesse ait commencé à exister dans le temps signifierait que Dieu aurait un temps existé sans sagesse. C'est pas possible. C'est un blasphème. Donc, on a l'impression que la sagesse ici, c'est Dieu. Et pourtant, elle nous dit qu'elle se tient à côté de Dieu et qu'elle joue avec lui. On comprend alors que ce texte nous plonge dans le mystère de Dieu lui-même. Dieu qui est le Dieu unique, nous dit la Bible, mais qui est aussi pluriel. Une pluralité en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est là qu'on arrive à notre second point. Par là, cette sagesse nous montre une première chose sur ce Dieu si mystérieux. Il n'est pas un Dieu solitaire, c'est un Dieu de relation. En effet, ce texte nous dit que même avant la création du monde, Dieu n'était pas seul. il était avec lui-même, on va dire. Il était en relation avec lui-même, en relation parfaite. Dieu le Père en relation avec la sagesse personnifiée. Cette relation se retrouve même lors de la création où Dieu et la sagesse créent ensemble. Il y a Dieu le Créateur dans ce texte et puis il y a la sagesse comme maître d'œuvre, le maître d'œuvre. Et il joue, il s'amuse tout en créant. Alors vous savez, on entend parfois des chrétiens disent, des croyants en tout cas dire, se poser la question en tout cas, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés ? Pourquoi ? Et pas mal de gens pensent dans leur tête que peut-être que Dieu a créé parce qu'il s'ennuyait tout seul. Eh bien ce texte et d'autres nous montrent que non, Dieu ne s'ennuyait pas. Et cela parce qu'il n'était pas tout seul, il était avec lui-même. Dieu est unique, mais il est trois en même temps. C'est ce que nous révèle la Bible. Et depuis toujours, Dieu vit une relation parfaite de joie, d'amour, de paix. Depuis toujours, Dieu est un Dieu de relation. Mais le plus incroyable, c'est que Dieu nous invite à intégrer cette relation. Voilà la bonne nouvelle. Dans notre texte, la sagesse nous dit qu'elle trouvait ses délices parmi les hommes. Donc elle nous appelle, elle veut que nous venions à elle, que nous venions à Dieu. Dieu est un Dieu d'amour et de relation. Et il invite les hommes à partager cet amour et cette relation avec lui. Et quand on lit ce texte, quand on pense à ce merveilleux amour, à cette si belle invitation, eh bien cela donne envie de louer Dieu. Ça donne envie de lui dire merci, de lui exprimer toute la joie que l'on ressent. Alors, c'est bon de rappeler ça et de dire que Dieu vit une relation parfaite, donc depuis toujours, il m'invite moi à vivre pour toujours également cette relation avec lui. On peut dire que merci Seigneur déjà, à ce point de la méditation. Mais dans ce texte, la sagesse nous apprend autre chose de Dieu. Elle nous apprend que Dieu est un créateur tout-puissant. Dieu est un créateur tout-puissant. En effet, la sagesse décrit, avec beaucoup de termes variés, elle décrit en tout cas en partie aussi les œuvres grandioses de Dieu. Il met les montagnes en place, je le cite comme ça en vrac, il met les montagnes en place, il fait l'immensité de la terre et des campagnes, de même que le minuscule un grain de poussière. Il installe le ciel à l'horizon infini et l'horizon infini. Il place les nuages, il fixe les limites des mers. Donc, la sagesse nous raconte l'œuvre de Dieu, œuvre à laquelle elle participe, comme si tout cela était pour Dieu. Dieu crée tout aussi avec facilité, nous dit ce passage. Depuis les montagnes jusqu'à la poussière. Le travail qu'il fournit n'est ni dur, ni pénible, ni fatigant. Dieu et la sagesse créent en jouant. Ils s'amusent ensemble, ils essaient de nouvelles formes, et ils essaient de nouvelles couleurs. Tiens le vert pour l'herbe, tiens le bleu pour le ciel. Ils font des animaux, parfois improbables, inattendus. En tout cas, c'est une œuvre de création immense, complexe. Magnifique, parfaite, sans erreur. Et pourtant pour Dieu, ça a l'air facile, ça a l'air paisible, ça a l'air joyeux. Donc ces images nous appellent à l'humilité, à l'adoration aussi, devant la grandeur et la puissance de ce Créateur. Mais cela nous pousse aussi à la reconnaissance, parce que ce même Dieu, si puissant, nous appelle, nous, a une relation d'amour avec lui. Et c'est là donc la beauté extraordinaire de ce texte, ce Dieu parfait pour qui tout est possible, ce Dieu parfait qui vivait une relation parfaite avec lui-même, eh bien ce Dieu se penche vers nous, ce Dieu-là se penche vers nous, se penche vers moi. Et il ne se penche pas avec mépris. Il ne se penche pas avec dérision, ce petit rien du tout, là, c'est qui cet être humain? Non, il aurait le droit de se pencher de cette façon-là. Mais il se penche vers moi, vers nous, avec amour, avec patience, avec bienveillance. Et il nous donne la vie, il pourvoit nos besoins, et il désire que bien qu'il soit notre Dieu, nous puissions l'appeler notre Père. Alors, à ce point de la méditation, il faut maintenant troubler ce parfait tableau. Il faut troubler ce magnifique tableau, parce que, eh bien, on ne peut pas, Dieu nous invite, mais on ne peut pas répondre à l'invitation de Dieu. La sagesse est bien gentille, on va dire, de m'offrir la possibilité de vivre cette relation parfaite avec Dieu. Et elle dit, mais écoutez ce qu'elle dit, écoutez-moi, gardez mes commandements, devenez sages. Écoutez-moi, heureux ceux qui observent mes voies. Enfin, il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens. Alors, en tant qu'être humain, on peut dire que ce n'est pas possible. Je ne peux pas. En tant qu'être humain, qu'est-ce que je fais de tout ce que je traîne comme casserole, de tous les mensonges, de mon égoïsme, de ma méchanceté même, je ne peux pas entrer dans une relation parfaite. Je ne peux pas vivre une relation parfaite parce que je suis loin d'être parfait. Et même si je voulais changer maintenant, je ne pourrais pas changer le passé, effacer tout le mal qui a été fait. Donc je ne peux pas répondre à cette invitation de Dieu, honnêtement. Mais la sagesse le sait. La sagesse le sait. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'invite quand même à vivre quelque chose que je ne peux pas vivre? Et c'est maintenant le moment de revenir à notre question du début, la sagesse personnifiée de notre texte. Mais qui est-elle, finalement? Alors, ça se discute. Je ne vais pas le discuter ce matin. Ça se discute, mais on peut penser que ce que la sagesse raconte ici au sujet d'elle-même ressemble beaucoup à ce que l'apôtre Jean raconte du Christ, qu'il appelle la parole dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Je résume les premiers versets du chapitre 1 de Jean. Il nous dit que la parole qui est le Christ était avec Dieu et que cette parole était Dieu depuis toujours, qu'elle a participé à toute la création. Elle est la vie, elle est venue dans le monde, elle appelle à devenir enfant de Dieu et donc elle appelait Père. Ça c'est le résumé de Jean 1, en tout cas des 18 premiers versets. Alors on va dire, ouais, ben, c'est fort de café ça. Ça ressemble quand même beaucoup à ce que la sagesse nous dit dans ce chapitre 8 du livre des Proverbes, 1000 ans avant la venue en chair du Christ. Alors la sagesse personnifiée de notre texte, donc, n'est autre que le Dieu le Fils. Le Dieu le Fils qui est Dieu sans être Dieu le Père. Le Christ, Jésus du Nouveau Testament, donc. Celui qui est appelé sagesse de Dieu par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 1:30. Le Christ qui est Dieu et pourtant qui est venu jusqu'à nous en tant qu'être humain pour nous parler, pour nous appeler à lui, pour nous inviter à vivre cette relation parfaite avec Dieu qui avait été rompue par le péché. Mais le Christ qui sait aussi donc que le mal qui est en nous nous empêche de vivre cette relation. Alors Dieu le Fils n'a pas fait que nous inviter, fort heureusement. On serait bien malheureux. Il est venu également pour régler notre problème et pour nous réconcilier avec Dieu et nous amener à une nouvelle communion avec lui. Le Dieu d'amour est aussi un Dieu juste, qui n'aime pas le mal, comme dit notre texte, comme le dit le verset 36, « Mais celui qui pèche contre moi nuit, manque à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » C'est clair. Dieu est un Dieu juste, nous ne sommes pas parfaitement justes. Alors Dieu le Fils est venu payer le prix de nos fautes à notre place. C'est là, tout le sens de l'évangile. Il est mort sur la croix pour nous, pour que nous puissions vivre la vie de Dieu, être réconciliés avec lui, retrouver la communion avec lui. Et Dieu le Fils, mort pour nous, est ressuscité. C'est lui qui nous invite maintenant à le rejoindre, à le suivre, à entrer dans cette vie, à entrer dans cette relation nouvelle, parfaite et éternelle avec Dieu pour lequel nous avons été créés. Alors, on pourrait conclure en nous appelant tous à la vie avec le Dieu trinitaire. C'est une belle formule. Hein. On va voir ce que ça veut dire. Donc au final, c'est un texte qui semblait beau, mais un petit peu mystérieux. Hein. Et on se rend compte, en approfondissant un petit peu, qu'en fait ce texte nous plonge dans la vie de Dieu, dans le mystère de Dieu lui-même. Mais grâce à ce texte, nous avons appris à mieux connaître qui est notre Dieu. Alors c'est d'abord le Dieu créateur, tout puissant. Dieu le Père, qui nous donne la vie, qui désire nous accueillir au sein de cette relation parfaite, de cette relation vivante. Mais c'est aussi le Dieu le Fils, qui nous aime tellement, qu'il est venu mourir à notre place pour enlever tout le mal qui nous séparait de l'invitation merveilleuse de Dieu. Mais c'est aussi, et on pourrait ajouter, Dieu le Saint-Esprit qui habite en nous. Dès le moment où nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Et c'est également par le Saint-Esprit que nous avons enfin accédé maintenant à cette relation parfaite d'amour, de vie qui existe en Dieu et avec Dieu. Cette relation à laquelle nous invitait la sagesse dans notre texte. Donc, la bonne nouvelle, c'est que cette invitation de Dieu, elle n'est pas pour quelques privilégiés. Elle n'est pas pour les parfaits. Elle est au contraire adressée à chacun de nous, largement. Alors je vous invite ici, tout comme la sagesse, à accepter cette invitation de Dieu. Reconnaissez votre imperfection. Reconnaissez votre injustice. Remettez-les à Dieu. Acceptez pour vous-même ce que le Seigneur Jésus, le Christ, a fait pour vous sur la croix, à la croix. Et alors recevez pleinement le pardon, la réconciliation. Donnez-lui alors toute votre vie. C'est là le sacrifice de reconnaissance qu'il réclame de nous. Et entrez alors dans cette relation parfaite à laquelle Dieu invite chacun de nous. Pour celui, mais il faut ajouter que pour celui qui répond positivement à l'appel de Dieu, écouter la sagesse implique immédiatement une marche quotidienne, une marche vigilante par rapport avec ce qui a été reçu. Dans le langage du Nouveau Testament, la vie éternelle se développe chaque jour, on va dire. Elle commence le jour de notre conversion à Dieu, mais elle se développe chaque jour avec le sentiment de l'approbation concrète de Dieu, verset 35. La vie chrétienne se vit comme le verset 35. « Celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. » Et donc c'est la faveur de Dieu sur toute notre vie. Et nous voulons garder cette faveur. Nous voulons vivre cette relation avec Dieu en lui donnant notre vie, toujours et à nouveau, en lui donnant le meilleur de nous-mêmes, en laissant le Saint-Esprit travailler dans notre cœur, nous sanctifier, et en amenant tout ce qui est caché à la lumière pour que Dieu nous transforme à l'image de Jésus. Connaître la sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances sur Dieu. Connaître la sagesse, c'est vivre une véritable relation personnelle avec le Seigneur Jésus. C'est une relation profonde qui atteint toutes les parties de notre vie. C'est une relation authentique, qui va au fond des choses. C'est une relation exigeante. Mais c'est une véritable relation pour laquelle nous avons été créés. Et c'est une relation qui nous donne la joie. Dans ce texte, il y a la joie de la création, la joie de vivre avec Dieu. Et c'est cette joie pour laquelle le Fils de Dieu est venu. Il est venu pour nous redonner la joie que nous avons perdue. Être pécheur, c'est être triste. Être réconcilié avec Dieu, retrouver notre Dieu pour lequel nous avons été créés, c'est retrouver la joie. Que nous puissions vivre en tant que chrétiens d'une joie profonde et que cette joie remplisse toute notre vie. Et cette joie s'intensifie, elle grandisse. Et elles remplissent tout le monde qui est autour de nous. Amen.